bienvenue dans C'est à vous, en direct jusqu'à 20h50 avec l'équipe du vendredi. Marion, Pierre, Patrick, Mathieu et Mohamed, bonsoir.
Bonsoir Elisabeth.
Au sommaire ce soir, un débat, Zemmour-Le Pen, Amazon qui empêche des Français de dormir et un bond de 48 ans en arrière au Texas.
Every unborn child who has a heartbeat will be saved from the ravages of abortion.
Les anti-avortements ont gagné. L'avortement est donc interdit au-delà de 6 semaines de grossesse.
L'écologie, c'est important pour Amazon?
Absolument.
On peut constater que la pollution visuelle est nocturne.
Nous faisons des investissements pour le montrer.
Marine Le Pen confirme à BFM TV qu'elle ira dîner à Béziers avec Robert Ménard et Éric Zemmour.
Il peut faire perdre
Marine Le Pen.
Marine Le Pen.
Il aura de quoi financer une campagne présidentielle si Éric Zemmour décide d'être candidat.
Eh bien non, Thomas Soulier, il refuse Éric Zemmour. Pourquoi?
Ouais. Vous arrêtez vos conneries.
Autant de sujets qu'on aborde avec nos invités entre 19h et 20h avant de recevoir deux divas et un champion hors norme.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, français, françaises.
On commence facile, puis après on prend plus qu'un peu.
Who are you?
Il s'appelle Rudy Gobert.
Presque 20 ans.
Taille 2m15.
On ferait moi la tour Eiffel.
Gobert, take it up, big man. Oh!
Gobert chausse même du 53.
Pour ce qui est de la taille, pas de problème.
Fallait voir pour croire.
Comment tu vas, mon big?
Parcours certes fulgurant, mais quasi exemplaire.
J'essaie de mettre toute la chance de mon côté.
D'allure, Michel Faux et le basketteur de génie Rudy Gobert dînent avec nous ce soir. Dîner préparé par Abdel Alaoui qui nous propose son curry du vendredi. Bonsoir Sébastien Le Foll.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction du Point, merci de votre présence ce soir. Vous publiez Reste à ta place chez Albin Michel, une enquête composée de témoignages de personnalités aussi diverses que Nicolas Sarkozy, Fabrice Lucchini ou encore François Pinault qui racontent comment elles ont été confrontées au mépris et comment elles en ont fait une force. On y revient longuement, mais hasard ou coïncidence, reste à ta place. C'est aussi le conseil qu'a donné ce matin Éric Ménard, Robert Ménard, à Éric Zemmour.
Éric, il a un vrai talent. Il a un vrai talent où il est. Où il est.
Et qu'il y reste. Nos
idées, qu'il y reste. Et en plus, il divise. Éric, je le lui ai dit. Tout ce que je vous dis là, je le lui ai dit. Éric, aujourd'hui, je lui dis, et je le lui ai dit, si tu continues, tu peux faire perdre ton camp. Or, ton camp, aujourd'hui, c'est plus Marine Le Pen que M. Macron.
Robert Ménard, qui dans la foulée a proposé un débat public à Béziers entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce qui a donné lieu, Patrick, à un premier duel à distance entre les deux prétendants d'extrême droite.
Oui, une journée entière de tractations au grand jour, très révélatrice et très inquiétante pour le Rassemblement national. Je rembobine le film. 8h40, on vient de le voir. Robert Ménard, le maire de Béziers, qui soutenait Éric Zemmour il y a encore quelques mois, lâche le polémiste. Laisse tomber Éric, tu n'es pas fait pour ça. Viens plutôt débattre à Béziers avec Marine Le Pen. 10h41, tweet d'Éric Zemmour. J'accepte, je débattrai bien volontiers. 14h30, Marine Le Pen accepte à son tour la députée de l'Hérault, Emmanuelle Ménard, épouse de Robert, l'annonce et s'en félicite.
Marine Le Pen, elle a accepté de discuter avec Éric Zemmour. Elle a même accepté de venir le faire à Béziers. C'est une discussion que nous avons eue avec elle encore tout à l'heure. Et Robert Ménard et moi-même sommes très heureux qu'elle accepte de venir le faire à Béziers parce que, encore une fois, c'est dans une optique de rapprochement.
Là, on pense que le rendez-vous est sur les rails, que l'une et l'autre, Le Pen et Zemmour, ont tous les deux envie de Béziers. Pardon, mais en fait, non, ce que Marine Le Pen veut bien accepter, c'est un dîner avec le polémiste, lequel réclame un débat public, refus du dîner, dialogue de sourds et intérêts divergents.
Qu'est-ce que ça change?
Ça change tout, un dîner c'est fait pour s'entendre et un débat pour s'affronter. Marine Le Pen voudrait tenter de neutraliser la candidature Zemmour, au moins de la rendre la plus inoffensive pour elle. Éric Zemmour, qui a dit le week-end dernier que tout le monde avait compris au RN que Marine Le Pen ne gagnera jamais, veut lui aller au combat.
Pourquoi disiez-vous que ces péripéties étaient révélatrices?
Révélatrices de la nervosité de l'entourage de Marine Le Pen, qui en réalité est tombée dans un piège au lieu d'ignorer un candidat qui n'est crédité pour l'instant que de quelques pourcents dans les sondages. sondages qui n'est pas certain d'obtenir les parrainages de maire pour concourir, elle paraît le traiter d'égal à égal. Elle l'amène dans la cour des prétendants sérieux. La palinodie d'aujourd'hui donne du crédit à la candidature Zemmour. Et puis révélatrice sur ce qui oppose réellement Le Pen et Zemmour. Apparemment, ce n'est pas le fond, c'est la méthode et la faisabilité. On a entendu un peu ce discours ce matin dans la bouche de Robert Ménard, mais j'ai été frappé aussi par un propos du plus proche conseiller de Marine Le Pen, conseiller spécial Philippe Olivier, hier dans les colonnes du Monde. Un polémiste ne fait pas de politique, ne fait pas un politique, dit-il. L'islam est incompatible avec la République, blablabla. Et alors, on pourchasse les musulmans, on fait la Saint-Barthélemy, les bonnes idées se heurtent à la réalité et à la loi. Fin de citation. Je vous laisse méditer sur les bonnes idées de chasse aux musulmans ou de Saint-Barthélemy.
Ça vous inspire quoi, Sébastien Le Foll, cette envie ou pas de Béziers, pour reprendre le bon mot de Patrick Cohen?
Ça me ramène, je ne sais pas, maintenant 15 ou 20 ans en arrière. J'ai connu Éric Zemmour au Figaro. J'ai commencé au Figaro, littéraire. Et Éric Zemmour, pour moi, c'était le journaliste du service politique qui était toujours à la fin de la conférence de rédaction, à côté de la machine à café. Et tous les matins, il accueillait un peu tout le monde avec cette même phrase « Tu connais ma théorie ». Donc j'ai vu Éric Zemmour naître à côté de cette machine à café du Figaro, testant assez brillamment d'ailleurs ses théories.
Qui était déjà celle citée entre
non, autres. Non, c'était pas forcément. Non, pas du tout. Il était un excellent journaliste politique, mais qui était plutôt à l'époque, son premier sujet, c'était les relations hommes-femmes.
Hein, ça avait donné
son premier livre qui a été un succès.
Avant portrait de Chirac aussi,
oui.
Qui a été...
Pour en revenir les bonnes idées de chasse aux musulmans de Saint-Barthélemy, c'est vrai que ça fait froid dans le dos.
Oui, le vocabulaire, il est... Il convoque là, les temps les plus tragiques de l'histoire, les plus graves. Et puis dans tout ça, il y a un côté... moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y aura encore des... Tout se passe comme si tout allait se reproduire comme avant dans le jeu politique. On l'a vu aux dernières élections, cette abstention massive. Est-ce qu'il y aura encore des électeurs à Noël? Est-ce qu'il y aura encore des électeurs l'année prochaine? Je trouve que les débats sont très éloignés.
C'est-à-dire que ça va dégoûter tout le monde? La façon dont s'annonce cette campagne?
Pour le moment, tout se fait autour des personnes. Enfin, on ne voit pas le...
Comme à chaque présidentielle. Et pour l'instant, le désamour ou la désaffection des Français pour les élections ne se vérifie pas au présidentiel qui reste...
Enfin là, ce n'est pas une forme de mépris.
L'élection reine.
Oui.
Ce que dit Robert Ménard, c'est un désaccord politique.
Oui, oui.
Voilà,
non, c'était l'expression « reste à ta place » qui, effectivement, du coup, m'avait inspirée. Le Point s'intéresse beaucoup à la droite pour ces présidentielles. 4 couvertures ces derniers mois. La dernière en date, ce que la droite a dans le ventre, mais aussi quel sera le candidat de la droite, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, qui tour à tour ont fait la une de votre magazine. Pas d'Éric Zemmour, en revanche. Il ne vous intéresse pas? Vous ne croyez pas en sa candidature?
Si, il y a bien très longtemps, moi ça fait 8 ans que je suis au Point, avant même que j'arrive au Point, il y avait eu une couverture, c'était la droite Zemmour.
Je vous parle là pour la présidentielle, dans l'objectif
récemment,
de la
présidentielle. Récemment, on a traité ses livres, on a
chroniqué. Vous ne croyez pas en sa candidature?
Nous avons publié le premier sondage qui avait été réalisé par Jérôme Fourquet, qui le donnait à, je crois, 5-6%. C'était avant l'été. Quand il publiera un livre, on l'analysera. On a récemment un de nos chroniqueurs qui a chroniqué un petit peu analysé tout son discours. Ni plus ni moins. Enfin, là, la droite, en ce moment, c'est quand même le sujet premier. Il y a une primaire.
Pour savoir ce qu'elle a dans le ventre, autrement dit...
Et dans la tête aussi, parce que c'est un peu le problème.
Autrement
c'est pas seulement, pas que le ventre.
Autrement dit, est-ce qu'elle peut battre Emmanuel Macron, parce que du côté d'Emmanuel Macron, on s'intéresse de très près à ce qui se passe. À droite, Nathalie Chu, qui signe le papier, explique que le président de la République suit le match entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand de très près. Il lit tout, il suit tout, il fait dresser l'inventaire des déclarations pour pouvoir éventuellement tirer à vue à la moindre agression. Mais il considère, à l'Élysée, que c'est Valérie Pécresse la plus dangereuse.
Oui, visiblement, ça a changé pendant l'été. Parce qu'avant avant les vacances, c'était Xavier Bertrand le plus dangereux parce que, par contraste, il offrait une alternative à la fois par son itinéraire, son discours, peut-être plus social, plus populaire. Et que l'idée, c'était que Valérie Pécresse était jugée un peu trop ton sur ton, qu'elle n'arrivait pas à faire la différence. On voit que pendant l'été, Valérie Pécresse qui a repenté un peu le terrain, aujourd'hui... a l'air d'avoir la cote. Enfin, ça va, ça vient, les modes journalistiques et politiques. On verra, je pense, avant la fin de l'année, parce que je ne crois pas que les choses se décantent aujourd'hui.
Tout de suite.
Très tôt. Là.
En attendant, vous essayez de savoir ce qui se passe dans leur tête et vous citez, notamment le papier cite un parlementaire et républicain qui déplore que les candidats à cette primaire, qui n'aura peut-être pas lieu, soit des N-1 par rapport à 2016 où le choix était entre un ancien président et deux anciens premiers ministres. Ils ont le blues ?
Alors là, pour le coup, c'est méprisant parce que Valérie Pécresse, elle dirige une grande région, Bertrand aussi. Barnier, il a quand même mené des négociations quand même capitales. Hein. C'est pas des...
C'est un parlementaire,
les républicains,
qui tient ce propos-là,
oui.
Que vous trouvez méprisant.
Ah oui,
à l'égard de ses propres candidats potentiels.
Si ça, ce sont des N-1, en tout cas les trois qu'on a cités, je ne sais pas qui est ce député. Un N-4, alors.
Au moins.
Des politiques, mais pas que, vous en avez rencontré pour ce livre. Reste à ta place, notamment Nicolas Sarkozy, Éric Dupond-Moretti, Anne Hidalgo. Ils témoignent aux côtés de Fabrice Luchini, François Pinault, Bernard Tapie, d'un des mots de la société française que vous avez décidé de résumer sous l'expression « reste à ta place ». Reste à ta place, ça veut dire quoi ? N'essaye pas de grimper dans l'échelle sociale, de changer de milieu ?
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai d'abord le point de départ de ce livre. Il est personnel. Hein. Moi, je n'avais pas le bon GPS pour devenir ce que je suis, diriger aujourd'hui la rédaction d'un grand journal. Il n'y a pas de journaliste dans ma famille. Je n'ai pas fait quasiment d'études.
On vous disait que ce n'était pas pour toi. Pour des gens comme nous, ce n'est pas fait pour ça.
J'ai entendu quand j'avais 15 ans, mais d'ailleurs c'était pour mon bien, un de mes cousins qui était conducteur de travaux, qui a dit à mon père, mais tu sais, c'est pas un métier fait pour des gens comme nous, il faut que tu lui sortes cette idée de la tête, parce qu'il avait peur pour moi. Et c'est vrai, quand j'ai commencé dans le journalisme, j'ai vu que oui, il n'y avait pas beaucoup de gens comme nous dans cette profession. Donc j'avais pas les codes, je me cognais contre les murs, les portes, je rasais les murs, je savais pas comment me comporter, il me manquait les références, la culture, les codes, la géographie de Paris. C'est ce que je raconte, et tous les personnages que j'ai interrogés dans ce livre, ils ont brisé un plafond de verre d'une manière ou d'une autre.
Ils en ont fait une force. C'est-à-dire qu'ils sont passés outre les origines, la manière...
C'est le paradoxe de ce mépris, c'est que d'un côté, il peut vous bloquer.
Et de l'autre...
Et beaucoup de Français s'auto-censurent, renoncent à leurs rêves. Et au contraire, ça peut vous galvaniser. Ça a été mon cas, ça a été le cas de beaucoup des personnes que j'ai interrogées.
Par exemple, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Rachida Dati, Fabrice Luchini ou Nicolas Sarkozy qui parlent justement de leurs origines, la manière dont elles ont été perçues.
Je pense en particulier à ma mère qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère.
Je suis deux fois petit-fils d'immigrés, si on peut dire ça comme ça, rapidement. Ma mère est femme de ménage.
Je suis enfant de la cité ouvrière.
Je vis dans mon 18e de pauvre. C'est mon 18e, j'y suis né, ma mère était femme de ménage.
Je m'appelle Nicolas Sarkozy et mettre une pièce sur moi, c'était impossible de connaître moins de gens. Et je rêvais d'y arriver. Et peut-être que c'est une histoire française, que quelqu'un qui connaissait personne... Puis arriver au sommet.
Nicolas Sarkozy, que vous avez rencontré, vous dit qu'il a été victime d'une forme de mépris, qu'il l'a poursuivi, y compris quand il est devenu président de la République. Il n'a notamment pas oublié un article du Nouvel Observateur de 2009.
Alors c'est ça qui m'a surpris quand je l'ai rencontré. Je pensais qu'il allait me raconter ses mésaventures avec les magistrats ou une déroute politique. Pas du tout, effectivement, c'est un article du Nouvel Observateur qui est publié alors qu'il est président de la République, et il a fait cette fameuse phrase sur la princesse de Clèves. Mmh. Il s'étonne qu'on demande à des fonctionnaires qui passent des concours administratifs de connaître la princesse de Clèves. Et le Nouvel Observateur fait effectivement un article pour faire dresser la liste des livres qu'il devrait lire. Et j'ai appris récemment du journaliste qui l'a signé cet article, que j'ai contacté, qu'on lui avait même fait, ils avaient fait porter à Nicolas Sarkozy à l'Élysée les 10 livres qu'il devait lire. Et aujourd'hui encore, Nicolas Sarkozy, qui a parfaitement réussi, il a été président de la République, est encore meurtri,
qu'on est ridiculisé, blessé de soi-disante absence de
ce mépris intellectuel.
Mépris intellectuel, mais mépris de classe très profondément ancré. François Pinault vous a raconté comment il était accueilli comme un plouc, lui qui venait d'un village breton, lorsqu'il rentre au collège Saint-Martin à Rennes.
Oui, ça, il en parle encore avec beaucoup d'émotion. Il revient de son petit village, il parle le gallo, là, donc en Bretagne, et le collège où il entre est un collège un peu où il y a déjà... C'est le premier bourgeois qu'il voit. Et effectivement, il a regardé très haut. Et quand sa mère, une fois de temps en temps, le rejoint pour déjeuner, elle apporte le pique-nique. Et ils vont tous les deux dans un petit café où il y a marqué « Ici, on peut apporter son manger ». Et il s'installe et il voit ses condisciples du collège qui, eux, ont les moyens de déjeuner ici, ricaner en le voyant avec sa mère, cette vieille bretonne, qui vient dans son habit de Bigouden.
Et c'est assez touchant la façon dont François Pinault, qui vient d'offrir à Paris un de ses plus beaux musées, vous dit qu'aujourd'hui encore, il a de temps en temps le sentiment de l'imposteur.
Oui, c'est-à-dire, ça c'est puissant ce sentiment d'imposteur. Beaucoup de femmes, l'éprouvent, mais chez les hommes aussi c'est très présent. Et François Pinault et d'autres le disent d'ailleurs. C'est ce sentiment, vous savez que... vous n'avez pas de mérite, finalement, que ce que vous réussissez, ce n'est pas vous, c'est la chance, c'est le hasard, ou c'est quelqu'un. Et donc vous en faites toujours beaucoup plus, parce que vous estimez n'avoir jamais réussi par vous-même.
Vous évoquez aussi Anne Hidalgo, qui vous raconte comment on a conseillé à ses parents de ne pas la laisser poursuivre ses études, pour éviter un choc social.
Oui, alors ça, c'est terrible. Elle est en première, je crois, elle va rencontrer son professeur
de mathématiques. De
mathématiques avec son père. Elle, la fille d'ouvrier, d'immigrés espagnols. Et effectivement, ce professeur lui dit, vous savez, secrétaire de direction, ce serait déjà très très bien pour votre fille.
Et encore aujourd'hui, c'est cuisant. Et puis il y a ceux qui en rient, dites-vous. Exemple, Fabrice Lucchini. Lui a réussi à...
Ah, il le dit, il pourrait être méprisant.
À passer outre, à s'affranchir, ouais. À en faire une force.
Oui, parce que... Fabrice Lucchini, c'est ce qu'il raconte dans ce livre, il a, au départ, lui, le fils de marchand de fruits et légumes, qui a arrêté l'école à 13 ans et demi, qui travaille dans la coiffure au départ, va devenir ce magicien des mots qui n'a pas peur aujourd'hui de se coller à des grands textes de la littérature. Il faut effectivement un certain courage pour s'affranchir de ça, se dire « non, je ne suis pas un imposteur, je suis légitime à parler de Céline ou de Molière ».
Vous avez sollicité le président de la République, vous voulez l'entendre sur ce thème, il a décliné l'invitation, ne reste que certaines de ses déclarations qui du coup résonnent. Ce fameux Lagarde, ce fameux lion où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous auriez aimé l'entendre sur le thème du mépris?
Oui.
Ça ne fait pas de lui une personne méprisante, mais...
Je ne désespère pas de l'entendre sur ce sujet, je pense que ça sera d'ailleurs le sujet de la présidentielle. Et c'est un paradoxe pour Emmanuel Macron, parce qu'il a très bien diagnostiqué ce que je décris, c'est-à-dire cet immobilisme social. Le problème en France n'est pas tant celui des inégalités que l'immobilisme social. Il y a ce chiffre quand même qui est effarant. Il faut 6 générations désormais en France pour que le descendant d'une famille modeste atteigne le revenu médian. Contre 4 générations et demie pour la moyenne des pays de l'OCDE. Donc ça, il l'avait identifié, c'est-à-dire le poids des statuts de cette société de rente. Il y a eu une même commission que dirigeait Jacques Attali, dont il était le co-responsable, qui a diagnostiqué tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, il est un peu victime d'un procès en mépris.
Le mépris qui est un sentiment qui vient de l'ancien régime?
Oui, ça remonte très loin. J'ai mené une enquête historique pour comprendre la genèse de ce mépris qui, comme le disait un philosophe du 19e, tombe de rang en rang dans la société française. Je crois que ça remonte même au sacre.
On est toujours le méprisé de quelqu'un.
Ah oui, parce qu'il faut tenir son rang, tenir sa place, son statut, et donc celui qui le menace, on le méprise. Ça commence à germonter à peu près ça avec des historiens au XVIe siècle. Je crois que c'est lors du sacre d'Henri II, il y a un problème lors de la cérémonie, et on envoie un archiviste pour savoir dans quel ordre doivent apparaître les dignitaires du royaume. Et là, qu'est-ce que ça va être la cour de Louis XIV? C'est le sommet du reste à ta place, l'étiquette. Mais nous sommes encore une société de cour et d'ordre, en partie.
Soyez économe de votre mépris, il y a beaucoup de nécessiteux, mais en France, ce mal est presque anthropologique. Notre pays est stratifié et ramifié par le mépris. Chateaubriand, c'est l'une des citations que l'on trouve dans votre livre « Reste à ta place ». Signé Sébastien Le Foll aux éditions Albin Michel. Vous restez avec nous, on va continuer avec vous à commenter l'actualité. C'est la story de Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Salut Babette, salut à toutes et à tous.
Salut.
Il y en a 20 fois plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, le risque de rupture de stock de certains médicaments qui font la une aujourd'hui.
Vous vous rappelez des inquiétudes qui régnaient sur les stocks de Doliprane au début de la crise du Covid? Eh bien, des Français vivent avec ces craintes depuis plusieurs années. En 2021, chez nous, des médicaments qui peuvent sauver des vies sont parfois en pénurie. Et pour répondre à cette urgence, un décret a été adopté depuis le 1er septembre. Il impose aux laboratoires de sécuriser durant 2 mois les stocks de certains médicaments régulièrement victimes de tensions. Malgré ce décret, les pharmaciens doivent parfois trouver des solutions de rechange face aux pénuries.
La grande difficulté, c'est pour les patients, bien évidemment, parce qu'en effet, ça génère d'abord du stress et de l'inquiétude. Donc nous, c'est, en tant que pharmacien, c'est beaucoup de travail pour justement trouver des solutions. Tout ça, c'est évidemment beaucoup de temps et de gestion. Et fort heureusement, on en trouve assez souvent.
1446 signalements de risque de pénurie reçus par l'Agence nationale du médicament cette année. En 2011, c'était une centaine seulement de signalements. Et il ne faut pas croire que ça concerne que des maladies très très rares. On voit aussi des infections, notamment comme l'usage de l'antibiotique, l'amoxicilline, contre toutes les infections, notamment chez les bébés, fait partie de cette liste de médicaments sous tension. Dans certaines communes en France, il faut parfois faire 2 à 3 pharmacies pour trouver de l'amoxicilline. Le Sartan, un médicament qui lutte contre l'hypertension, la première pathologie chronique, est aussi concerné, même s'il ne règle pas tout. Ce décret donc une belle victoire pour les associations.
C'est un décret extrêmement important parce que ça résout pas mal de problèmes de pénurie. C'est un travail sur la gestion des pénuries. On a des stocks obligatoires que tous les labos devront pouvoir avoir pour les médicaments d'intérêt majeur. Et le fait de l'avoir inscrit sur ce décret fait que on a des pénalités lorsque les laboratoires ne vont pas prévenir à l'avance d'une rupture attendue de médicaments.
Pour expliquer cette tension sur les médicaments, 4 raisons. Les incidents qui peuvent toucher une usine de production, la moindre impureté peut conduire à détruire un lot de médicaments, l'explosion de la consommation dans les pays émergents, et ensuite les raisons beaucoup plus importantes, les médicaments qui ne sont plus sous brevet. Au bout de 20 ans, plus de brevet, c'est donc beaucoup moins cher sur le marché et moins intéressant pour les laboratoires. Dernier point, le fait que le prix des médicaments soit encadré en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Pour contrer ces risques et ces pénuries, d'autres solutions sont aujourd'hui proposées.
On a mis en place l'outil qu'on appelle DP Rupture, pour dossier pharmaceutique rupture. C'est une communication qui relie les acteurs de la chaîne du médicament et qui permet d'échange d'informations, toujours grâce à l'outil DP Rupture. Quand un patient aura absolument besoin d'un traitement, l'outil DP Rupture permettra de signaler ce besoin urgent directement au laboratoire qui mettra tout en œuvre pour apporter à ce patient le traitement dont il a besoin.
Sébastien Le Foll, encore plus depuis la crise du Covid, la relocalisation de nos usines est un enjeu pour le président de la République, Emmanuel Macron. Un enjeu de fin de mandat aussi, puisque ça concerne notre souveraineté nationale.
Oui, alors là, vous me prenez de court, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais oui, effectivement, c'est tout le discours né de la crise du Covid. On voit ça aussi d'ailleurs dans le textile, hein. Il y a une relocalisation en cours. Après, est-ce que derrière la posture, je ne sais pas si on va... Il y a aussi la mondialisation, ça a aussi un sens. Hein. Il n'y a pas le discours sur le souverainisme économique a aussi, à mon avis, ses limites.
En tout cas, on peut dire que 2 usines pharmaceutiques ont été relocalisées en France, notamment pour la question du Doliprane, très cher à Pierre Lescure.
Oui, mais alors, il y a aussi des pharmaciens et des spécialistes de ces questions qui contestent cette idée. Par exemple, pour le Doliprane, à quoi ça sert d'avoir une usine de Doliprane? Évidemment, c'est un problème quand les échanges mondiaux sont coupés, la situation exceptionnelle du Covid l'an dernier et du surgissement de cette crise. Mais en temps normal, si le marché mondial fonctionne, effectivement, il y a des choses qui sont absolument indispensables sur le territoire national et d'autres qui peuvent s'échanger
en tout cas,
à bas coût.
Il ne faut pas abuser du Doliprane, je crois.
Oui, non, non plus.
Pas très bien pour les reins, le Doliprane.
Oh ben ça, oui, on peut en faire une.
N'abuse pas, mais voilà. J'aime bien l'avoir sous la main.
On est rassuré pour Pierre. C'est un bond en arrière de près de 50 ans. En 1973, le Texas, comme tous les États américains, avait légalisé l'avortement. Depuis mercredi, c'est interdit. Marion.
Interdit au-delà de 6 semaines de grossesse, y compris en cas d'inceste ou de viol. C'est le résultat de la nouvelle loi anti-IVG signée en mai dernier par le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, et qui avait suscité un tollé jusque sur les bancs de l'école, souvenez-vous.
I am terrified that if my contraceptives fail, I am terrified that if I am raped, then my hopes and aspirations and dreams and efforts for my future will no longer matter when there is a war on my body and a war on my rights. A war on the rights of your mothers, a war on the rights of your sisters,
We cannot stay silent.
Un discours qui avait été relayé des millions de fois sur les réseaux sociaux. Paxton Smith, 18 ans, profitait de sa remise de diplôme pour s'insurger contre la perspective de cette nouvelle loi baptisée Heartbeat Bill. Alors de quoi s'agit-il exactement ? D'une loi qui interdit l'avortement à partir du moment où le battement de cœur peut être enregistré dans l'embryon, soit 6 semaines maximum, sachant que 85 à 90% des IVG concernent des grossesses parvenues au-delà de ce délai. Plus inédit encore, la démarche utilisée par les conservateurs texans pour appliquer cette nouvelle loi, en gros, la délation, c'est aux citoyens de dénoncer devant les tribunaux tous ceux qui auraient favorisé l'avortement, le personnel des cliniques, qu'il soit médical ou administratif, les psychologues, un proche ayant participé au financement de l'opération, jusqu'au chauffeur du taxi qui a conduit la patiente sur place. Tous encourent une amende de 10 000 dollars, soit 8 400 euros. Eh bien, c'est cette loi qu'a refusé de censurer la Cour suprême des États-Unis, soit la plus haute juridiction du pays, suscitant l'ire de Joe Biden, qui a parlé d'une insulte à l'état de droit et d'une attaque sans précédent aux droits des femmes. Rarement on avait vu propos aussi violents adressés par un président contre la Cour suprême, qui, face à l'indignation quasi générale, a rappelé que les recours en justice étaient encore possibles. Et Paxton Smith, me direz-vous, la jeune fille au diplôme dans tout ça, eh bien on l'a retrouvée. Elle est aujourd'hui étudiante en première année à l'université au Texas, s'apprête à publier un livre intitulé « A War on My Body, A War on My Rights », une guerre à mon corps, une guerre à mes droits. Écoutez sa réaction recueillie il y a une heure à peine.
It's hard to believe that a law like this could even go into effect in a place like America. Some of the core foundations of America, our liberty and freedom, but my state has gone against those principles and has taken away a basic human right from half of the members of its population. And that's incredibly upsetting and it's incredibly dehumanizing. On continuing to put pressure on lawmakers and to push them to make legislation that does not restrict people's rights.
Voilà, sachant que cette loi pourrait inspirer d'autres États, l'Arkansas, la Floride ou encore le Dakota du Sud ont déjà annoncé plancher sur le sujet.
Bonsoir Anne-Cécile Meffer.
Bonsoir.
Présidente de la Fondation des femmes. La crainte, c'est que cette loi au Texas menace plus largement le droit à l'avortement dans tout le pays, partout aux États-Unis.
Alors dans tout le pays et dans le monde aussi, parce qu'on sait que les États-Unis ont quand même un rayonnement très important, et on le voit d'ailleurs en France avec, on commence à voir petit à petit la diffusion par exemple d'un film anti-IVG il y a quelques semaines sur une chaîne française. C'est la conséquence aussi du décès de Ruth Bader Ginsburg, qui était une des juges de la Cour suprême américaine, qui était la juge anti-IVG, qui faisait vraiment barrage en fait à toutes ces tentatives, et c'est pour ça aujourd'hui que la Cour suprême américaine a permis ça, parce qu'une des dernières décisions de Trump, ça a été de nommer une juge ultra-conservatrice à la place de cette grande défenseuse des droits des femmes.
On en voit les effets immédiatement.
Et un des problèmes, enfin voilà, et ce qu'on voit aussi très concrètement dans la vie des femmes, c'est que elles ne vont plus être en capacité de pouvoir disposer de leur propre corps. À partir de 6 semaines, mais 6 semaines, ça va extrêmement vite, c'est quasiment rien, parce que le temps de se rendre compte qu'on est enceinte, et c'est déjà trop tard.
Celles qui auront le plus de moyens pourront, elles, aller ailleurs, contrairement à celles qui n'ont pas d'argent.
Ouais. Et alors, c'est un sujet qu'on a aussi en France, il ne faut pas se le cacher. En France, les délais d'IVG, c'est 12 semaines.
Ils n'ont pas été rallongés.
Ils n'ont pas été rallongés malgré les demandes, entre autres, du planning familial et de beaucoup de Françaises qui, aujourd'hui, sont obligées d'aller en Espagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre, où les délais sont de 22 semaines alors qu'ils sont de 12 semaines en France.
Elles sont nombreuses, ces Françaises ?
Elles sont nombreuses. Elles sont plusieurs milliers par an. Alors, c'est très difficile. C'est ce qu'estime le planning familial. C'est très difficile de le chiffrer réellement, puisque souvent, elles le font, évidemment, en cachette, puisque c'est illégal, et elles le font sur leur propre fond. En tout cas, les femmes, elles ne demandent pas de compassion, elles ne demandent pas de pitié. Les femmes, elles demandent juste de pouvoir disposer de leur propre corps en toute liberté, et refuser à une femme un avortement, c'est une violence.
Ce mouvement réactionnaire, il ne touche pas que l'Amérique, vous l'avez dit, il touche aussi l'Europe, la Pologne, où avorter est désormais quasi impossible, la Hongrie, même l'Italie, où 80% des gynécologues refusent aujourd'hui de pratiquer un IVG. On ne peut pas s'empêcher, ici comme là-bas, d'y voir aussi le poids de la religion. du religieux.
Le poids du religieux en général, ces entraves-là, c'est les religions, les traditions, les conservatismes en général. Les femmes, le combat des femmes pour disposer de leur propre corps, c'est un combat qui se fait contre une domination millénaire qui est la domination des hommes pour s'approprier le corps des femmes et s'assurer une descendance au travers de leur corps. Donc que les femmes reprennent le contrôle de leur corps, de leur sexualité, c'est évidemment, ça empêche ce plan-là.
Remettre en cause l'avortement, le droit à l'avortement en France, ça paraît aujourd'hui impossible. Et pourtant, vous dites que les militants anti-avortement sont à l'offensive constamment.
Absolument. Le problème de l'IVG, c'est que quand on n'avance pas, on recule. C'est vraiment un droit qui est constamment en danger. On sait que des mouvements anti-avortement en France sont financés par des églises américaines et par des mouvements américains qui ont énormément de moyens. On a vu une petite association devenir avoir un écho médiatique assez important il y a quelques temps. C'était Les Survivants, je crois, quelque chose comme ça. Ils avaient beaucoup de moyens pour avoir des beaux sites internet, pour avoir sur les réseaux sociaux, faire des campagnes médiatiques. Ils avaient renouvelé un peu la manière dont ils défendaient leurs idées de revenir en arrière sur les droits des femmes, très clairement. Et c'est vrai que le fait que le gouvernement aujourd'hui soit réticent à allonger de 12 à 14 semaines c'est cette demande-là qui est faite par, entre autres, le planning familial, c'est un mauvais signe. Parce que si le gouvernement n'ose pas aller jusque 14 semaines, il a peur de quoi, en fait ?
C'est le Sénat qui a bloqué la loi, oui.
Alors, c'est pas que le Sénat. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas favorable personnellement à ça.
Ça veut dire qu'on a le droit d'avorter, mais pas trop, quoi.
C'est ça. Voilà, ça veut dire qu'on nous laisse le droit, mais pas l'entière responsabilité non plus. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas nous laisser complètement libres de décider. Il faut un petit peu nous contrôler, parce que sinon, on pourrait faire n'importe quoi.
Dans l'actualité du jour aussi, aujourd'hui est un jour particulier. 2 ans exactement après le lancement du Grenelle des violences conjugales, le Premier ministre Jean Castex en a dressé le bilan.
Ce combat, en réalité, contre les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, ne s'arrêtent jamais. Et notre responsabilité est de tout mettre en œuvre pour le rendre plus efficace, être réactif, prendre les mesures qui s'imposent, mais surtout, je le dis, veiller à leur application.
Jean Castex qui estime que jamais l'État n'a autant investi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Vous vous dites que ça ne suffit pas.
Alors, il n'a jamais autant investi, c'est sûr, mais quand on parle de 0,006% du budget de l'État, on peut se dire que voilà, quand on rajoute 1 ou 2 millions, c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais comparé à ce qu'il faudrait, c'est ridicule encore. Nous, on attend encore le quoi qu'il en coûte des violences conjugales. On a besoin de moyens supplémentaires et là, bon, c'est bien que Jean Castex fasse le bilan de ces 2 ans, du fait qu'il soit encore en train de mettre en application des promesses faites il y a 2 ans. C'est bien que ça avance. D'ailleurs, ça avance mieux d'ailleurs avec Elisabeth Moreno, donc ça, on s'en félicite. Mais on avait déjà dit il y a 2 ans que c'était pas suffisant, donc je vais pas vous dire aujourd'hui que c'est suffisant, d'autant plus que depuis 2 ans, on a vu un certain nombre de problèmes s'accumuler.
Par exemple,
on a vu lors des derniers, dans de certains féminicides qui ont fait l'actualité très fortement, comme celui de Mérignac, qu'on avait encore des policiers qui sont accusés de violences conjugales, qui prennent les plaintes de femmes victimes de violences conjugales. Bon, en plus, un colonel de gendarmerie promu, alors qu'il vient d'être condamné pour violences conjugales, c'est aussi encore une des preuves que ce sujet n'est pas vraiment au centre des choses. Et puis, financièrement, Un des graves problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est au niveau de l'hébergement. Nous, la Fondation des Femmes, on a financé plus de 33 500 nuitées depuis le début de la crise Covid. Aujourd'hui, on n'arrive plus, on n'a plus les moyens. Mais en fait, ce n'est pas à nous, déjà, à la base, de financer ça. C'est vraiment à l'État d'assurer la mise en sécurité des femmes victimes de violences. Et aujourd'hui, ils rechignent à mettre de l'argent sur la table, alors qu'on voit bien que quand il y a d'autres priorités importantes, on entend quoi qu'il en coûte.
Ça veut dire que c'était un sujet prioritaire pour Emmanuel Macron. C'était
c'est un sujet
très clairement
prioritaire, mais qui pense se changer magiquement sans mettre d'argent. Mais je veux dire, jamais rien ne change, et surtout aucune politique publique d'ampleur ne peut être mise en place sans moyens. Il nous faut plus de policiers, il nous faut plus d'hébergement, il nous faut des associations qui répondent au téléphone avec des écoutantes qui sont formées, du matériel, des téléphones, des ordinateurs, enfin bref, n'importe quelle politique publique pour être mise en place, il faut un suivi, une organisation et des sous. Sans sous, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire.
Merci beaucoup Anne-Cécile Meffert d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. C'est
Salut Mathieu.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Au sommaire ce soir.
L'appel à l'aide d'une famille française bloquée en Afghanistan après le départ des Américains. La pagaille des évacuations, vive inquiétude pour ce Lyonnais et ses trois enfants que vous allez entendre. L'installation d'un nouvel entrepôt Amazon, c'est toujours un débat. De nouveaux emplois, mais de nouveaux désagréments aussi, des pollutions pour les riverains. Nous avons pu visiter cet entrepôt. Et puis enfin, pourquoi les Françaises sont-elles de moins en moins épanouies sexuellement? On va décortiquer cette étude européenne qui nous apprend au moins que les Françaises sont plus libérées que leurs voisines.
On débute ce 5 sur 5 avec des retrouvailles.
Oui, rapidement. Est-ce que vous vous souvenez de Nicolas Hulot?
Oui.
Le président de la République a nommé Monsieur Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Si on attend que toutes les planètes soient alignées pour avancer, j'ai de vous dire qu'on ne va jamais avancer.
Je ne veux pas me retrouver dans quelques années, ni vous, ni moi, ni vos responsables, devant la justice, parce que nous aurons su les choses et qu'on n'a pas pris nos responsabilités.
Je ne peux pas, parce que je suis ministre, du jour au lendemain, opérer une conversion, une mutation des esprits brutalement, en un an.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je prends la décision de quitter le gouvernement.
Eh bien, c'est une des images du jour, la fin de la visite du président de la République à Marseille. La ville accueille le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et pour la première fois depuis le départ de Nicolas Hulot du gouvernement, une apparition publique entre les deux hommes. Et franchement, quel meilleur cadre que les Calanques à Marseille pour se retrouver. Bon, la réalité, c'est que lors de cette sortie en mer, il a surtout été question de désaccords profonds sur le budget alloué à la défense de la biodiversité.
Actuellement, dans le plan de relance, il y a 0,25% du budget qui est consacré à la biodiversité, c'est largement insuffisant. Il faut augmenter le nombre de zones protégées et les moyens qui sont affectés à la biodiversité.
L'Union internationale pour la conservation de la nature, simplement, je le précise, l'UICN, pour que vous compreniez, c'est comme le GIEC pour le climat, mais avec la biodiversité, le congrès doit durer jusqu'à mardi.
L'appel à l'aide d'une famille française coincée à Kaboul.
Ils sont lyonnais, ils sont franco-afghans, ils séjournaient à Kaboul et n'ont jamais pu s'échapper à temps dans la confusion du départ américain. Père, mère et trois enfants, 3 ans, 6 ans et Soufiane, 8 ans, dont la préoccupation, et c'est touchant, est de ne pas avoir pu faire sa rentrée hier à l'école Les Géraniums.
Ça va un petit peu?
On est coincé en Afghanistan.
Ton papa me disait que t'avais un petit peu pleuré.
Oui, oui.
Tu peux m'expliquer pourquoi?
Parce que l'école, aujourd'hui, il a commencé.
Soufiane a écrit à sa maîtresse, sachez-le aussi, et aujourd'hui, ce sont ses copains qui s'inquiètent. Alors, Chapour, le père de famille, est commerçant à Lyon. Il ne souhaite plus s'exprimer publiquement par crainte de représailles. Nous avons contacté son avocat aujourd'hui.
Il n'a aucune nouvelle de la cellule de crise du Quai d'Orsay, c'est-à-dire qu'il ne sait pas du tout dans quel laps de temps il est susceptible de réintégrer la France. Et localement, il n'y a strictement aucune information et la certitude qu'aujourd'hui, les aéroports ne permettent pas un départ international. Il n'y a pas le simple message qui pourrait dire « on a reçu votre appel à l'aide, on le prend en considération, on va revenir vers vous ». On ne sait pas du tout dans quel délai il est susceptible de, la famille est susceptible de rentrer en France. C'est quelque chose qui n'est pas de nature à faire descendre d'un cran le stress des Français qui se trouvent là-bas. On parle de ressortissants français, d'enfants en bas âge. Hein.
Alors vous l'entendez, la France n'est pas à la hauteur selon cet avocat. J'ai aussi appelé le Quai d'Orsay qui me dit que cette famille est bien enregistrée dans leur liste, qu'on fait le maximum pour l'heure pour sécuriser les Français sur place, mais que ce soir, aucune garantie ne peut être apportée. Les opérations d'évacuation sont à l'arrêt.
Anne-Cécile Meffer, je sais que l'Afghanistan est un sujet évidemment qui vous préoccupe.
Ce matin, oui, vous évoquiez dans une chronique le sort d'Aïcha, qui a été restée bloquée là-bas.
Aïcha fait partie de 8 jeunes féministes que nous avons identifiées comme étant en grand danger, avec qui nous sommes en contact et que nous n'avons pas pour l'instant réussi à faire sortir d'Afghanistan. C'est la même chose, la cellule de crise de l'Élysée ne nous répond pas et on est très inquiète. On aimerait savoir est-ce que si on arrive à trouver un moyen de les faire sortir, est-ce qu'elles seront acceptées en France? C'est la question qu'on pose en ce moment. Et pour le moment, je n'ai pas de réponse de la part de l'Élysée. Donc, on espère, on croise les doigts. J'imagine qu'ils sont submergés de demandes. Oui. Mais c'est vrai qu'on compte les jours parce qu'on sait qu'elles sont extrêmement menacées, qu'elles sont identifiées par les talibans, que certaines ont déjà été frappées par eux. Et donc voilà, on est inquiète et on espère qu'on va réussir à les faire sortir. Et puis au-delà d'elles, après, il y en a beaucoup d'autres qui ont besoin de sortir. Et puis les femmes en général, le sort qui les attend est quand même extrêmement... je suis extrêmement pessimiste.
Vous avez peur qu'on les oublie une fois l'émotion passée, une fois...
On va les oublier. Enfin, c'est clair. Il y a d'autres crises dans d'autres pays du monde sur les droits des femmes dont on ne parle absolument pas. Dans quelques mois, on va les oublier. Et c'est pour ça que nous, on essaye de... Là, tant que l'actualité est chaude, on essaye de pousser ça parce que la situation est dramatique, va être dramatique. La situation pour les sages-femmes, la situation... Enfin, pour les femmes en général, dès qu'elles sont à des postes à responsabilité ou autres, c'est... Voilà, elles nous le disent, c'est affreux. Une partie de leur, voilà, de leur existence va être réduite à zéro, effacée.
Tandis que la situation sur place n'est toujours pas stabilisée, la situation politique.
Oui, je voulais simplement vous montrer cet homme, il s'appelle Aïbatullah Akhundzada. C'est le chef suprême des talibans, et je reste sur cette photo parce qu'il n'existe aucun autre cliché de cet homme. Vous le verrez bientôt, si Dieu le veut, promettent les talibans. Alors on ne sait même pas où il est, on nous promet qu'il est en Afghanistan, jamais apparu publiquement, très mystérieux. Les experts l'imaginent surtout caché au Pakistan voisin. Alors pourquoi est-ce qu'il se cache? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Écoutez la journaliste Solène Chalvon-Fioriti, pardon, grand reporter qui vient de rentrer d'Afghanistan.
On sait très peu de choses de lui, il faut rester modeste. Nous, en tant que journaliste, ça fait des années qu'on essaye évidemment de le rencontrer, surtout depuis 2016 en fait, parce qu'il a vraiment pris la tête du mouvement en 2016. Et d'ailleurs, il faut reconnaître qu'il a assuré une certaine cohésion au mouvement. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un personnage qui a une très grande connaissance islamique. Et en cela, d'ailleurs, on l'a beaucoup comparé au Mollah Omar, parce que tous les deux, ils sont dans l'ombre, ils n'ont pas envie de rencontrer des dignitaires. Mollah Omar ne voulait pas rencontrer des étrangers au motif que c'était des infidèles. Peut-être que cet homme ne va pas avoir une autorité exécutive, si vous voulez. On voit quand même depuis quelques semaines qui sont les figures qui se démarquent dans le jeu afghan. On voit Baradar, on voit Yacoub, on voit d'autres interlocuteurs. On a vu ceux, évidemment, qui avaient pris place dans le palais présidentiel. Il n'en faisait pas partie. Il risque d'être une autorité spirituelle, sans doute très rigide et très stricte, mais pas nécessairement les mains dans le cambouis, si vous me permettez cette expression.
Alors vous avez compris, Aïbatullah Akhundzada, c'est celui qu'on ne voit pas, il y a ceux qu'on voit. L'exécutif, les talibans, ont promis de l'ouverture. Il faudra encore attendre au moins jusqu'à demain pour connaître les équilibres de pouvoir, la composition de leur gouvernement. Il y a des optimistes, Anne-Cécile Maillefer, par rapport à ce qu'on disait, qui imaginent qu'il pourrait y avoir des femmes à des postes au moins symboliques. Franchement, est-ce que ça change quelque chose ?
Franchement, ça change absolument rien. C'est pas le problème. Ils vont peut-être trouver une ou deux femmes, mais encore, je crois pas, parce que c'est vraiment, ça a pas l'air du tout d'être dans l'esprit quand même de la charia ou de ce qu'ils ont pu faire auparavant. Donc, j'y crois pas du tout. Et puis, même si on avait une ou deux, il faudrait pas se leurrer. C'est comme quand ils disent, on va respecter les droits des femmes dans le cadre de la charia. C'est vraiment nous prendre pour des idiots. Enfin voilà, ça va être terrible pour les femmes, c'est sûr. Elles le savent, elles le sentent, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui essayent de fuir et qu'il faudra les accueillir.
Retour en France, là où on veut bien recevoir nos courses et nos commandes dans la journée, mais qui veut d'un entrepôt Amazon près de chez lui ?
Alors cette semaine, le géant américain inaugurait son 8e entrepôt du genre en France, un centre de distribution. Et je vous emmène à Ogny, c'est en Moselle, 2000 habitants, à un quart d'heure de route de Metz. Et là-bas, c'est un vrai débat. Alors il faut dire que c'est une commune rurale, agricole, qui a vu pousser ce bâtiment de 180 000 mètres carrés, 24 mètres de haut, le parking, les quais de chargement pour un balai de très très gros camions. Mais il faut le dire aussi, la métropole de Metz connaît 15% de chômage et Amazon a promis 1000 emplois. Alors le maire, agriculteur sur les champs avoisinants également d'ailleurs, le maire n'a pas hésité et il assume son choix pour la commune.
C'est une chance parce qu'aujourd'hui on a 15% de chômage sur notre espace et les gens qui cherchent du travail sont contents aussi d'aller travailler. C'est des emplois qui sont difficiles en logistique et Amazon est plutôt à conserver ses employés plus longtemps que la moyenne des logisticiens. Donc je crois que 75% des salariés d'Amazon recommanderaient à leur famille de venir travailler chez Amazon.
Alors sur place, les réactions sont mitigées, vous vous en doutez. Écoutez, cette riveraine, je le précise tout de même, elle est opposante au conseil municipal.
Pour l'instant, ce que l'on peut constater qui est très net, c'est par exemple la pollution visuelle et nocturne. C'est-à-dire que cet énorme bâtiment que vous avez là, vous avez quelques spots qui sont dirigés vers le bas, mais Amazon s'est éclairé en grand et l'intégralité des fenêtres sont illuminées. La nuit.
Toute la nuit, 7 jours sur 7.
Voilà, on y voit comme en plein jour, quasiment. Ici, si vous voulez, ce sera une zone normalement de stockage. Vous aurez des camions qui vont passer jour et nuit là. C'est 300, 350 poids lourds. Une fois le camion vient, une fois il repart. Ça fait 700 passages par jour à peu près. Tenez, voilà, regardez. Voilà, il y en a un qui arrive. Voilà, on aura ça toutes les 5 minutes, jour et nuit.
Cette riveraine qui nous a par ailleurs précisé que d'autres riverains ont touché de l'argent en dédommagement et contre leur silence. Cet entrepôt Amazon tout neuf, entrepôt du futur, notre reporter, c'est à vous, Ibrahim Raïs, a pu également le visiter en compagnie de sa directrice.
Logis, c'est important pour Amazon ?
Absolument, absolument. Et nous faisons des investissements pour le montrer, des investissements au niveau photovoltaïque, au niveau électrique, électrification, au niveau récupération des eaux de pluie, et ça va continuer.
Comment vous m'expliquez du coup que le logo Amazon et les lettres Amazon brillent toute la nuit ? Il y a des riverains qui nous disent que toutes les fenêtres sont éclairées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous n'étiez pas là hier parce que, en fait, les panneaux d'Amazon ne sont plus éclairés la nuit.
Ah, c'est pas ce que les riverains nous disent.
Venez voir, venez voir.
Alors, il fallait être là la veille, qu'à cela ne tienne, nous nous sommes fait envoyer une photo, alors elle est un peu floue, hein, de la nuit dernière. Les lumières sont bien allumées, contrairement à ce que dit la directrice du site.
Mais pourquoi est-ce que vous parlez d'entrepôts du futur ?
Oui, quand même, vous allez voir concrètement ce qu'on trouve à l'intérieur de ces entrepôts. Et c'est impressionnant, sur ces images d'Anaïs Recouli, vous voyez ce balai robotique. Un peu comme les petits aspirateurs automatiques que vous avez à la maison peut-être, qui sont à la mode. Ceux-ci lisent des QR codes sur le sol pour se repérer, se déplacer. En fait, c'est votre panier de commandes Amazon, hein, qui est à l'image. Là, il y a peut-être votre livre, Sébastien Le Foll. Il y a votre déguisement de Didier Raoult, Patrick.
Je veux le même chez moi pour ranger mes affaires.
On pose une palette géante dessus et ça bouge tout seul. Et tiens, comme je sais que vous recevez le basketteur Rudy Gobert dans un instant, eh bien, ces étagères du futur, elles font à peu près sa taille.
Et donc, il y a peut-être pas de salariés, en fait. Il n'y a pas de salariés.
Il y a un millier de salariés sur le site, mais vous voyez qu'il y a besoin de moins en moins de monde, évidemment, pour faire...
Pas pour la manutention
de ces machines.
C'est toujours un dilemme compliqué, création d'emplois.
À la fois, on comprend ce maire, et puis on voit derrière tout l'arrière-plan économique, effectivement. Hein.
Mais vous, Sébastien Le Foll, votre livre, qu'il soit vendu chez un libraire,
moi, j'achète chez les libraires,
Amazon, dans un supermarché,
même si j'étais assez furieux l'année dernière.
Oui, parce qu'il y a aussi un arrière-plan fiscal. Le choix d'acheter à Amazon plutôt que dans des entreprises françaises, et encore plus évidemment par rapport aux libraires du quartier, puisque Amazon continue de ne pas payer ce qu'elle devrait payer dans les entreprises où elle exerce.
Concurrence déloyale.
Alors, question comme souffle, il y a peut-être des sextoys dans cet entrepôt.
C'est possible, dans ces étagères, évidemment, il y a de tout. Un tiers des Françaises ne sont pas épanouies sexuellement. On termine avec cette étude de l'Observatoire européen de la sexualité féminine qui nous regarde et qui nous compare, et rien ne va plus. 35% de Françaises insatisfaites, une femme sur trois, beaucoup plus que nos voisines anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles, et l'écart se creuserait même. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, mais d'abord, écoutez ces femmes, ces couples, ces hommes aussi, que Camille Schmitt et Anaïs Recouli ont rencontrés ce matin.
35% des Françaises ne se disent pas épanouies sexuellement.
Ah, eh bien moi je le suis. Ah oui. Très.
Moi, je suis à moitié allemande et à moitié française, donc mon côté français est bien satisfait, je suis très contente, et mon côté allemand aussi.
J'essaie d'être à l'écoute, et donc de comprendre aussi ses désirs, et donc je pense que c'est tout est question de communication, en fait, dans un couple. Et...
Je crois que la vie d'une femme en France est beaucoup plus épuisante que celle d'une femme en Allemagne, par exemple.
Moi, je crois que les gens, finalement, ils aiment bien leur confort, hein. C'est ça. Puis ils se disent « Oh, ben j'ai ça, ça va, bon, puis c'est pas si important que ça. » Il y a ça aussi. Hein.
Je pense qu'il y a aussi un problème de compréhension des deux sens. Je connais aussi plein de mecs où c'est un peu comme ça.
Moi, personnellement, j'ai commencé tout ça assez récemment. Du coup, c'est que le début. Je vois plutôt comme un long voyage où, avec différentes personnes, différentes façons, différents endroits. Et oui, toujours... Continuer vers encore plus de plaisir, si c'est possible, oui.
Ne commencez pas les disputes de couple devant C'est à vous ce soir, s'il vous plaît. C'était pas l'idée. L'étude, vraiment, elle est intéressante. Les femmes françaises seraient en réalité plus libres pour ce qui est de la sexualité. Et c'est vrai que la parole, déjà, s'est libérée ces dernières années. Plus expérimentée aussi, plus initiée. Tiens, regardez simplement cette archive de 1964. Cette jeune fille, clairement, on a fait du chemin.
Est-ce que vous estimez avoir
Enfin, que c'est nécessaire d'avoir des expériences sexuelles avant le mariage.
À mon idée, moi, j'ai envie de rester pure pour mon mari.
Il sera pas pur, lui.
Oui, mais ça fait rien. Je trouve que qu'un garçon, quand même, a besoin d'avoir des liaisons. C'est tout à fait naturel.
Alors, analyse ce soir, 1964, je le rappelle, nous nous sommes rendus au cabinet de la sexologue Catherine Blanc, autrice de « La sexualité décomplexée, 50 idées reçues, revues et corrigées ». Écoutez-la.
Quand les femmes dans X générations passées avaient l'objectif de se marier et de faire des enfants, la réalisation d'elles-mêmes, passant par ces deux points, finalement était très restrictif, mais assez protecteur d'une certaine manière. Libérer cette parole permet aux femmes de dire « Eh bien, je peux, j'ai du potentiel, mais ce que l'on m'apporte ne me convient pas. »
Nous apprend également que les Françaises savent aussi mieux dire non à des pratiques qu'elles ne désirent pas, à la reproduction des codes du porno notamment. Alors Anne-Cécile Maillefer, cette étude, elle nous dit quoi? Que les femmes françaises sont plus libres que leurs voisines en termes de sexualité, qu'elles s'assument plus, ou simplement qu'elles disent stop à une vision peut-être trop masculine?
Alors elles sont peut-être un petit peu plus honnêtes quand elles disent qu'elles ne sont pas entièrement satisfaites. Il y a encore du chemin à faire et c'est sûr que quand on voit qu'aujourd'hui les cours d'éducation à la sexualité restent ce qu'ils sont et que par ailleurs les enfants commencent à voir du porno entre 8 et 11 ans, je crois, c'est quand même extrêmement inquiétant parce qu'on sait ce que c'est le porno. Hein. Ce sont aussi des viols par exemple qui sont en ce moment sur les plus grandes plateformes vidéo. YouPorn aux États-Unis a été condamné récemment pour héberger des vidéos de viols et se faire de l'argent sur ces crimes. Donc la situation elle est assez inquiétante. Inquiétante de ce plan-là, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est sûrement dans le sillage de MeToo, que peut-être que les femmes, de plus en plus, réussissent aussi à assumer de dire la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont, de moins simuler et de plus vouloir prendre plaisir.
Mais elles ne font plus semblant, elles assument plus, mais est-ce que du coup, elles complexent pas un peu plus leur potentiel partenaire ?
Ah, l'ego des hommes. Mais je pense que c'est important qu'on... Voilà, l'ego des hommes, c'est une chose, mais notre plaisir, à nous les femmes, il est aussi important que l'ego des hommes. Et le fait de prendre son pied, le fait d'assumer ce qu'on veut, le fait de pouvoir avoir plusieurs partenaires, un partenaire, pas de partenaire, pourquoi pas. Le fait de pas trop aimer le sexe, pourquoi pas, ça existe aussi. Le fait d'aimer les femmes, ça existe aussi. Le fait d'aimer les femmes et les hommes, enfin bref, il y a plein de choses qui existent. Et on en est encore au balbutiement, en réalité, de la libération sexuelle des femmes.
La sexualité, ça fait souvent la couverture du Point ou pas, Sébastien Le Foll ?
Non, pas trop, parce qu'on a toujours l'air un peu ridicule quand on traite ces sujets, d'ailleurs, souvent dans les magazines. On illustre ça avec deux grenouilles l'une sur l'autre. Oui. Ou, c'est toujours un peu pathétique.
Ou des pieds qui sortent des draps, comme
voilà, par exemple.
La photo
c'est pas la magazine illustration.
Ça veut dire quoi ? Qu'il y a une pudeur mal placée ? Il y a toujours de la gêne et de l'embarras à l'égard de ce sujet ? Il faudra arrêter d'en avoir et se libérer,
peut-être,
et libérer sa parole.
Le sujet, peut-être.
Il faut repenser ça, oui, c'est vrai.
C'est assez
symptomatique. Elle a écrit un super bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Sortir du trou, lever la tête. Ça dépend dans quel sens on le voit. Il y a un côté pour les garçons, un côté pour les filles. Et donc voilà, il y a de plus en plus d'ouvrages de sexologues féministes qui s'expriment sur ces questions. Et donc à nouveau, je pense que la libération sexuelle des femmes est en chemin et qu'on a de beaux jours devant nous.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait tas d'indicateurs qui tenaient encore en France. Maintenant, même si la satisfaction sexuelle a chuté. C'est la catastrophe.
Oui, ah bah oui,
sauf
c'est la cerise sur le gâteau. Reste à ta place, c'est fini. Sébastien Le Foll, c'est ça. Chez Grâce. Albin Michel. Merci beaucoup de votre présence
merci
ce soir. Merci Mathieu, merci Anne-Cécile Maillefer.
Merci beaucoup.
Dans un instant, Amanda Lear, Michel Faux, Rudy Gobert sont nos invités. Quelque chose à dire, Bertrand?
La semaine de la nouvelle saison de C'est à vous s'achève ce soir. Je me suis dit qu'il fallait fêter ça, donc je vous offre les plans du générique qui ont fini à la poubelle.
Tout de suite là.
Je danse.
Mais quel déhanché, rigole
pas Patrick,
il y en a pour tout le monde.
J'ai bien fait de passer la parole. A tout de suite pour les actualités de Bertrand, vu la story média de Mouabed Bouafsi, le dîner c'est à vous.
Oh ta tête.
Bah oui, je danse.